Bien le bonjour et une nouvelle édition de Carrefour du Monde aujourd'hui, édition qui vous est présentée cette semaine depuis la France. Tous nos correspondants, comme d'habitude, se sont mobilisés pour essayer de vous offrir des analyses de l'actualité internationale, analyses en décalage du traitement médiatique consensuel qui contraint les journalistes à raconter tous la même chose. Eh bien nous, à Carrefour du Monde, nous avons décidé de vous informer autrement autant que possible. En une demi-heure aujourd'hui, nous allons faire un tour du monde, un tour de l'Europe plutôt cette semaine, puisque nous irons en Belgique, où les élus écologistes du gouvernement semblent bien décidés à jouer leur rôle d'arbitre en vue des élections législatives qui approchent. C'est pour le 18 mai prochain. Détour également dans ce carrefour de l'information en Suisse. La Suisse s'apprête à vivre au rythme de l'agitation mondialiste et anti-mondialiste autour de l'imminent sommet du G8 à Évian. Évian, c'est en France, pas en Suisse, mais la ville de l'eau minérale est située sur les berges du lac Léman, à la frontière. Et c'est plutôt du côté suisse que d'éventuels débordements contestataires sont redoutés. Détour en Suisse donc, avec également les difficultés de la compagnie aérienne Swissair, contrainte à prendre des mesures d'urgence pour relancer le trafic aérien. Des mesures d'urgence qui, on le verra, ne font pas vraiment l'unanimité dans le pays. Le G8, ce sera d'ailleurs le thème de notre émission spéciale dans 15 jours, émission consacrée entièrement au sommet donc. Mais notre correspondant français nous dressera tout de même un pré-bilan des thèmes abordés et des mesures de sécurité mises en œuvre côté français cette fois. Actualité française rythmée également par les traditionnelles contestations syndicales. Le 13 mai devrait être une journée noire pour le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Des manifestations sont prévues un peu partout, des manifestations contre la réforme pourtant indispensable de la sécurité sociale. Alors les Français sont-ils d'éternels mécontents? La réponse avec notre correspondant dans cette émission. Et puis enfin, Carrefour du Monde fera escale cette semaine en Espagne. Le pays est toujours terrorisé par les nationalistes basques soutenus par l'ex-parti Batasuna. Et quand on dit terroriste, qui est-ce qui arrive au galop? Je vous le donne en mille. George W. Bush, qui après l'Afghanistan et l'Irak, se préoccupe maintenant de la question basque. Il a donné son avis sur le problème et cela n'a pas fini de faire couler l'encre en Espagne. Le reportage de Carrefour du Monde est consacré cette semaine à la fameuse loi de compétence universelle. Cette loi, pas toujours bien définie, qui permet de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des génocides. Récemment, des plaintes ont été déposées contre Bush père et Ariel Sharon, ce qui a amené le gouvernement belge à l'origine de cette loi de compétence universelle à la redéfinir. Enfin, démission et au micro de Nicolas Willems, l'analyse d'Éric David. Il est directeur du Centre de droit international et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Carrefour du Monde est diffusé à Montréal, au Canada, sur CISM 89.3 FM, à Bruxelles, sur Radio Campus 107.2 FM et sur Radio Panique 105.4 FM. Nos correspondants à travers le monde se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à l'écoute de cette édition. Nous sommes ensemble pour la prochaine demi-heure. C'est donc dans un climat politique tendu que la Belgique se prépare à vivre les élections législatives du 18 mai prochain. La coalition arc-en-ciel, coalition qui regroupe des libéraux, des socialistes et des verts, vient de subir un nouveau coup dur, un nouveau désaccord qui fait suite au départ des élus écologistes du gouvernement. Alors pour beaucoup, ce coup de force n'est qu'une manœuvre électorale de plus, mais pour d'autres, les verts auraient pu prendre cette décision bien avant. Les écolos sèment donc la zizanie en Belgique, d'autant plus que de nombreux sympathisants qui ont voté pour les Verts sont aujourd'hui déçus par la première expérience du pouvoir des écologistes. Un sentiment de trahison puisque les idées séduisantes du programme électoral des élus ont plutôt tourné à la politique néolibérale classique. Les Verts belges dans le collimateur et plus de détails avec notre correspondant à Bruxelles, Nicolas Willems.
Dans un contexte politique tendu que la Belgique se prépare aux élections législatives du 18 mai, la Belgique est gouvernée depuis 4 ans par une coalition arc-en-ciel, une coalition hétéroclite qui comprend des libéraux, des socialistes et des verts du côté flamand et francophone. L'arc-en-ciel, lors de sa déclaration gouvernementale en 99, avait fait de nombreuses promesses et laissait espérer de grands changements après plus de 50 ans de domination des partis chrétiens. Le bilan de la politique bleu-rouge-verte s'annonce néanmoins plus mitigé. L'action du gouvernement a surtout été dominée par les politiques néolibérales. C'est surtout le parti libéral qui a défini les grandes orientations du pays. Les socialistes ont toujours tenu un double discours. D'un côté, le PS a voulu s'afficher en garant des acquis sociaux. En réalité, les socialistes ont soutenu une politique de centre-droit en tournant le dos à leur position traditionnelle. Quant aux écolos, ce sont les grands perdants de cette législature pour leur première expérience du pouvoir. Les Verts se sont laissés pervertir à de nombreuses reprises. Beaucoup d'électeurs avaient placé de grandes attentes envers Ecolo. Pourtant, le parti a déçu lors de son action gouvernementale. Les Verts ont soutenu les frappes américaines contre l'Afghanistan. Ils ont aussi poussé les privatisations, le tout sécuritaire, les ventes d'armes frauduleuses et les restrictions de la politique d'immigration. En bref, Ecolo, qui avait marqué sa singularité lorsqu'ils étaient dans l'opposition, s'est complètement dilué dans la coalition. Les Verts ont même été humiliés à plusieurs reprises par leurs partenaires libéraux et socialistes. C'est à 2 semaines des législatives que les Verts ont finalement décidé de quitter le gouvernement, un peu tard pour certains qui regrettent que les écologistes ne l'aient pas fait auparavant. Manœuvre purement électoraliste, martèlent d'autres qui ne sont pas dupes face à ce revirement. Il faut dire que ce départ des écolos a été provoqué par le contentieux sur le survol de nuit de Bruxelles par les avions de ligne. Un contentieux qui est nettement moins ardu que les autres couleuvres que les Verts ont été obligés d'avaler pendant 4 ans. Quoi qu'il en soit, la coalition sortante se déclare haut et fort totalement satisfaite de son action. La communication et l'autosatisfaction ont été les grands principes de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel et surtout les socialistes n'ont cessé de se féliciter à un point tel que toute critique était malvenue. Du coup, dire aux socialistes par exemple qu'ils ont perdu leur discours de gauche était malvenu, même si ça se vérifie dans les faits. Les libéraux ont également affiché un progressisme de façade pour appliquer des mesures toujours plus libérales. Cette autosatisfaction portée au rang de principe de gouvernance a aussi ponctué toute la campagne électorale. On n'a jamais vu une campagne où tout le monde se félicite à ce point. Une campagne télévisuelle qui relègue le discours au second rang au profit de l'apparence et du superficiel. Ces gesticulations médiatiques des hommes politiques belges cachent le vrai problème de ces élections. En effet, le Vlaams Blok, ce parti flamand d'extrême droite, risque de connaître une nouvelle progression en Flandre. Déjà lors des précédentes législatives, ce parti nationaliste, raciste, antisémite, xénophobe et homophobe avait remporté 30% des voix dans certaines circonscriptions flamandes, ce qui laisse craindre une nouvelle poussée brune en Belgique. Au moment où l'opinion publique montre une désaffection de plus en plus importante face à cette politique de centre-droit et suite à la fin des clivages gauche-droite. Beaucoup ont peur de voir les extrémistes du Vlaams Blok remporter un score historique. Bruxelles, Nicolas Willems pour Carrefour du Monde.
Il ne fait pas bon être une compagnie aérienne en Suisse en ce moment, surtout quand le contexte national et international ne veut décidément pas jouer en votre faveur. La crise du transport aérien, la pneumonie atypique et la guerre en Irak. 3 raisons pour une conséquence, la jeune compagnie aérienne Swissair a du mal à décoller. Elle a même dû prendre des mesures d'urgence, des mesures qui sont loin de faire l'unanimité dans le pays. La correspondance à Lausanne de Laurent Dufour.
La compagnie née des cendres de la mythique compagnie Swissair et du transporteur européen Crossair a peine soufflé sa première bougie que déjà elle doit revoir ses ambitions à la baisse. Première mesure prise par Swiss, la séparation, comme au temps de Swissair et Crossair, du transport long courrier rentable du secteur régional européen aujourd'hui déficitaire. Pour ce secteur régional, une nouvelle filiale baptisée Swiss Express sera lancée en fin d'année. Elle devrait se positionner dans le segment des compagnies à bas prix. Autre mesure annoncée, la réduction de 10% de l'ensemble de la masse salariale. Swiss n'a pas encore dit comment elle comptait s'y prendre. Alors on l'a dit, ces annonces font réagir et au premier rang des réactions, on trouve les pilotes issus de l'ex-Crossair. Ceux-ci sont en conflit avec Swiss depuis le lancement de la compagnie pour des questions salariales. En un mot, ils demandent d'être traités à l'égal des pilotes de l'ex-Swissair. L'arrivée de Swiss Express ruine donc leurs exigences. De plus, ils s'attendent à payer les pots cassés car les vols régionaux seront probablement supprimés. Leur syndicat menace de faire grève. Du côté des experts, beaucoup estiment la mesure prise par la direction de Swiss insuffisante. D'aucuns voient la compagnie sauvée, mais seulement à court terme. Finalement, il n'y a qu'un partenaire qui soit satisfait, c'est l'État suisse. De l'argent public avait pour la première fois été engagé dans une société privée, l'ex-Swissair, juste avant son naufrage. Les députés avaient juré qu'on ne les y reprendrait plus. Or, en ce début d'année 2003, les nuages s'amoncelant sur le ciel de Swiss avaient fait craindre à beaucoup qu'ils ne doivent répudier leurs promesses. En année électorale, c'est plutôt de mauvais ton. Quant à laisser tomber la compagnie, c'est-à-dire admettre que la Suisse prospère ne possède plus de compagnie aérienne nationale, personne ne semble vouloir s'y résoudre. Les prochaines élections nationales, décidément. On peut lire la plupart des événements de l'actualité suisse à leur lumière. Tenez, la crise qui couve au sein du comité anti-G8 dans le canton de Vaud. Lors des défilés du 1er mai à Lausanne, une petite dizaines de casseurs se sont mêlés au défilé des altermondialistes. En 2 minutes, ils ont mis à sac un palace de la ville sous les yeux de la police qui n'a pas bougé. Et bien, suite à cela, le leader charismatique du comité anti-G8, par ailleurs député national communiste, a demandé à ses ouailles de ne pas manifester à Lausanne contre le sommet du G8. La police n'est pas à même de faire face à d'éventuels casseurs. Surtout, il ne faut pas leur associer le mouvement pacifiste, a-t-il déclaré en substance. Lisez entre les lignes, je ne veux pas associer mon nom en tant que candidat à ma propre succession au Parlement fédéral à d'éventuels débordements. Le député communiste, dépassé sur sa gauche, s'est vu disqualifié par le reste du comité anti-G8 qui maintient la manif à Lausanne. Du 1er au 3 juin, pendant que les grands de ce monde évoqueront les prochaines guerres à Évian, en France, juste en face de Lausanne, il reste à espérer que les policiers suisses, renforcés peut-être par des troupes allemandes et bardés d'équipements anti-émeutes ultra sophistiqués et ultra coûteux, sauront faire face sans provoquer la catastrophe. Lausanne, Laurent Dufour, Carrefour du Monde.
En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est un peu la tendance en France pour ce début du mois de mai. Un mois de mai qui fait le bonheur des amoureux de week-end à rallonge puisque les jours fériés tombent bien cette année. Et les traditionnels ponts du 1er et 8 mai, celui de l'Ascension également le 30, sont de véritables viaducs. En mai, fais ce qu'il te plaît. Le proverbe est pris en tout cas à la lettre par les syndicats et le gouvernement français qui ne semble pas vouloir négocier la réforme pourtant indispensable de la sécurité sociale. Les traditionnels défilés du 1er mai, jour de la fête du travail, ont servi de répétition générale à ceux du 13 mai, journée de mobilisation qui devrait paralyser le pays. Mais cela n'effraie pas trop le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin qui, en bon communicant, qui se respecte, a trouvé, comme d'habitude, la formule qui tue pour rassurer et exprimer sa vision de la démocratie. À Grenoble, on retrouve Faith Swilly.
La rue doit s'exprimer, mais ce n'est pas la rue qui gouverne. Voilà le message adressé par le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin aux Français lors de son intervention télévisée mercredi dernier. Le Premier ministre a réaffirmé sa volonté de mener la réforme de la sécurité sociale et de la fonction publique comme il l'entend. Ce n'est évidemment pas l'avis des syndicats qui vont manifester le 13 mai pour protester contre les réformes prévues par le gouvernement. La future loi prévoit d'allonger la durée de cotisation des travailleurs à 42 ans pour que ceux-ci touchent une retraite pleine, alors qu'elle est actuellement de 37 ans et demi pour les fonctionnaires et de 40 ans pour les salariés du secteur privé. Actuellement, les travailleurs paient les pensions des retraités, la population française vieillissant, le système actuel semble condamné à long terme, puisque de moins en moins de travailleurs devront payer pour des retraités de plus en plus nombreux. Concernant la fonction publique, Jean-Pierre Raffarin prévoit de geler le budget de 2004, afin, dit-il, de faire des économies pour financer la baisse des charges, la baisse des impôts et pour libérer les forces vives, c'est-à-dire les entreprises. En fait, il semblerait que c'est pour éviter d'éventuelles sanctions financières de l'Union européenne que le gouvernement a pris cette mesure. La loi Sarkozy sur le racolage passif a fait la semaine dernière sa première victime. Une prostituée, mère de famille de 40 ans, a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris à une amende de 300 € pour avoir montré son décolleté à chaque passage de voiture. Dans sa volonté de lutter contre la prostitution, le gouvernement français a choisi la manière forte et désormais, toute attitude suspectée de conduire à des relations sexuelles rémunérées est sanctionnée. Personne n'est épargné, que ce soit les clients, les proxénètes ou les prostituées elles-mêmes. Avis aux visiteuses étrangères, si vous venez en France et que vous êtes habillé de façon provocante, vérifiez que des policiers ne rôdent pas autour de vous lorsque vous arrêtez une voiture pour demander votre chemin. Sinon, cela pourrait bien vous mener au cachot. À Grenoble, Faïd Souaidi pour Carrefour du Monde.
Dernière escale de notre tour du monde de l'actualité, l'Espagne. L'Espagne où les manœuvres s'intensifient pour bouter les nationalistes basques extrémistes hors du champ de la légitimité démocratique. À 3 semaines des élections municipales et dans la plus grande précipitation, les candidatures du parti Batasuna qui soutient les séparatistes basques ont été annulées dans toutes les municipalités où les radicaux étaient implantés. Le parti Batasuna en lui-même a certes disparu pour cause d'illégalité, mais il était réapparu sous le signe AUB, autrement dit autodétermination. Mais il n'y a pas qu'en Espagne qu'on pourchasse les amis du terrorisme basque. George Bush en personne, fin méconnaisseur de la question basque, a donné son avis sur la question. Un avis commenté par Emmanuel Stills, notre correspondante à Madrid.
Les États-Unis et l'Espagne, main dans la main pour la liberté et la tolérance à travers le monde. C'est en ces termes qu'aux côtés d'un José María Aznar exultant, le président américain George Bush a présenté à la presse l'inscription du parti radical basque Batasuna sur la fameuse liste des organisations terroristes. Une liste concoctée, rappelons-le, par Washington après les attentats du 11 septembre 2001. Le Premier ministre espagnol a ensuite pris la parole et sur ce désormais habituel petit ton suffisant et revanchard, Aznar a défié depuis la Maison-Blanche ceux qui en Espagne s'étaient opposés à la croisade contre l'Irak. Voilà, a-t-il dit. Maintenant, ils seront bien forcés de reconnaître qu'elle a servi à quelque chose, notre amitié avec les États-Unis. La voilà la conséquence. Malgré que la conférence de presse se soit assimilée, semble-t-il, à un échange dégoulinant et interminable d'obséquiosités, de remerciements et d'éloges en tout genre entre nos deux grands propagateurs de liberté, le commentaire, ou plutôt l'analyse, effectuée par Aznar à travers cette petite phrase contondante et ce voilà enfantin, eh bien cette analyse n'est pas restée noyée dans cette mare sirupeuse. Les micros des journalistes espagnols, en effet, ont sursauté. Si l'organisation terroriste basque ETA figure sur cette liste depuis belle lurette, le but d'Aznar était de le faire rejoindre par leurs amis de Batasuna, qui n'est, rappelons-le, qu'un parti politique, même si désormais illégal. Mais en signifiant explicitement que c'est l'alignement de l'Espagne à la guerre américaine en Irak qui avait eu pour conséquence la nouvelle préoccupation américaine pour la question basque, Aznar en est presque venu à dire qu'il avait attaqué l'Irak pour se donner les moyens d'affronter le nationalisme basque. Les raisons de faire la guerre vont-elles continuer à fleurir indéfiniment ou sera-t-on un jour fixé sur le pourquoi d'une telle agression ? Cette confusion, la ministre espagnole des Affaires étrangères l'a définie comme la solitude du pionnier. Aznar représenterait à ses yeux l'archétype d'un justicier incompris. Effectivement, son sens de la justice échappe actuellement à plus de 95% des Espagnols. Aznar l'a dit lui-même à Tony Blair, « Je ne suis soutenu que par 4% de mes concitoyens ». Ce à quoi le Premier ministre britannique lui aurait répondu « Mince alors, c'est encore moins que le nombre de gens qui pensent qu'Elvis Presley est toujours vivant ». Mais la moins glorieuse des récentes batailles d'Aznar se situe peut-être sur le front cubain. Les derniers excès du régime de Fidel Castro, la brutale répression des dissidents et les exécutions cruelles ont été vivement condamnées par toutes les forces politiques espagnoles. Mais le chef du gouvernement n'y a vu qu'une occasion de réduire les partis de gauche, taxés en bloc de communistes, à un idéal de société répressif et sanguinaire. Si un leader de gauche manquait le moindre rassemblement contre l'oppression à Cuba qui avait lieu en Espagne, ils étaient immédiatement dénoncés par les services de surveillance politique qu'Aznar semble avoir mis sur pied spécialement, et le nom de ces leaders de gauche était conspué publiquement à la moindre occasion. Aujourd'hui, la majorité des politiciens espagnols seraient donc de purs castristes. Les représentants de la communauté cubaine en Espagne avaient beau supplier Aznar en invoquant le fait que ce qui desservait leur cause, c'était d'abord et avant tout la division qu'ils tentaient d'instaurer entre les tendances politiques. Mais rien n'y a fait et le Premier ministre s'est obstiné dans la voie du simplisme mesquin et agressif. Après tout, nous sommes en pleine campagne électorale et n'importe quelle cause, aussi louable soit-elle, est bonne à sacrifier sur l'autel de la diabolisation. Pionnier solitaire, vous avez dit. Oui, mais alors beaucoup trop pionnier pour être raisonnable. À Madrid, Emmanuel Stales pour Carrefour du Monde.
Carrefour du Monde reportage en Belgique. Le gouvernement a récemment amendé de manière fondamentale la fameuse loi de compétences universelles. Ces textes votés entre 1993 et 1999 permettent de juger les crimes de guerre, les génocides et les crimes contre l'humanité. Cette loi a par exemple permis de juger en 2001 quatre auteurs du génocide rwandais de 1994. À l'heure actuelle, une trentaine de plaintes ont été déposées dans le cadre de la compétence universelle. Sont visés entre autres Hissène Habré, Laurent Gbagbo, Saddam Hussein, Fidel Castro ou encore Augusto Pinochet. D'autres plaintes comme celle contre Ariel Sharon ou Bush père ont elles également provoqué de vives tensions diplomatiques, ce qui a poussé les autorités belges à réviser cette loi. Écoutez l'analyse d'Éric David, il est directeur du Centre de droit international et professeur à l'Université libre de Bruxelles. Nicolas Willems l'a rencontré.
C'est une loi qui a été adoptée en 1993, 93 comme disaient improprement les Français, pour assurer l'application en droit belge des conventions de Genève de 1949 sur la protection des victimes de la guerre. Dans ces conventions, il est prévu en effet que les États doivent poursuivre et réprimer les auteurs de crimes de guerre, quel que soit le lieu où le crime a été commis, quelle que soit la nationalité de l'auteur, quelle que soit la nationalité de la victime. Et c'est simplement pour se mettre en ordre avec cette règle qui, je le répète, existe depuis 1949 dans ces conventions, que la Belgique a finalement adapté son droit à ce que prévoient tout simplement ces conventions. Alors, là où la Belgique a été plus loin que ce que les conventions de Genève prévoient, c'est qu'elle s'autorise, du moins dans la version originelle de la loi, parce que la loi a été modifiée tout récemment, dans la version initiale de la loi, la Belgique s'autorise à exercer des poursuites pour crimes de guerre, même dans l'hypothèse où l'auteur du crime ne serait pas trouvé en Belgique. Donc l'auteur du crime n'est pas belge, la victime n'est pas belge, le crime a été commis à l'étranger, l'auteur du crime n'est pas trouvé sur le territoire belge, et pourtant le juge belge pourrait exercer sa compétence si tant est qu'il est saisi soit par le parquet, soit d'une plainte avec constitution de partie civile qui serait déposée par une victime. Dans une hypothèse de ce genre, qui est une hypothèse extrême, où il n'y aurait pas vraiment de lien de rattachement entre le crime et la Belgique, eh bien, la Belgique serait néanmoins compétente. Mais ce qui rend aussi la loi peut-être particulière, ce n'est pas quelque chose qui est propre à la loi dite de compétence universelle, ce qui est surtout propre au droit belge, en combinaison avec la loi, et en même temps, ce qui n'est pas quelque chose de spécifique au droit belge, c'est la possibilité d'une plainte avec constitution de partie civile. Et là, c'est un système qui est en réalité un système qui existe pour n'importe quelle infraction, pas seulement pour des crimes de guerre, pas seulement pour des crimes contre l'humanité ou le génocide, parce que j'ai oublié de vous préciser donc que la loi de 1993 a été modifiée en 1999 pour y ajouter les crimes contre l'humanité et le génocide, les crimes donc qui peuvent donner lieu à poursuite en Belgique, indépendamment de la nationalité de l'auteur, de la nationalité de la victime et du lieu de l'infraction. Non, ce qui est propre au droit belge et à un certain nombre de systèmes de droit qui connaissent la figure du juge d'instruction, c'est cette possibilité de dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Parce que le dépôt de plainte, dans un système où il y a un juge d'instruction, a pour conséquence que le juge est saisi de l'affaire, qui ne doit pas attendre des réquisitions de la part du parquet. Le juge peut être saisi directement par les victimes, directement par des plaignants. Et une fois qu'il est saisi, eh bien, l'instruction peut commencer, indépendamment de ce que le parquet peut penser. Bien sûr, le parquet peut déposer, s'il le souhaite, des conclusions, qui seraient des conclusions négatives, disant qu'il n'y a pas lieu d'instruire, qu'il estime que la plainte n'est pas sérieuse ou qu'elle n'est pas fondée. Mais c'est le juge d'instruction qui, en dernière analyse, prend sa décision, de manière tout à fait indépendante, comme n'importe quel magistrat de l'ordre judiciaire. Et ça, je dirais, cette combinaison à la fois de la possibilité dans les systèmes de droit continental, où l'on connaît le principe du juge d'instruction, avec la possibilité d'exercer la compétence universelle, est probablement une des explications du déferlement de plaintes qui ont été déposées en Belgique au cours de ces dernières années, puisqu'il y a à peu près une trentaine de plaintes qui ont été déposées contre des chefs d'État, des ministres étrangers impliqués dans des crimes graves de droit humanitaire, qu'il s'agisse de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité.
Finalement, ces modifications qui ont été adoptées ne jouent pas une certaine interférence des milieux politiques dans le judiciaire. Et que malgré tout, le diplomatique et certains intérêts, qu'ils soient politiques ou en tout cas économiques, comme dans le cas de la plainte Bush, risquent de crisper, en tout cas de ralentir cette loi.
Bon, alors, vous avez raison de dire, est-ce qu'il n'y a pas là une interférence du politique dans le judiciaire ? Vous avez tout à fait raison. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui a été immédiatement soulevé par le Conseil d'État, qui a dit ce n'est pas possible, ce genre de procédure, parce que cela aboutit à une interférence du politique, de l'exécutif sur le judiciaire. Alors là, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est de dire qu'il faudrait néanmoins que le dessaisissement du juge belge soit prononcé par la Cour de cassation. Oui, mais question, Est-ce que la Cour de cassation est une simple chambre d'entérinement ou est-ce qu'elle a véritablement un pouvoir d'appréciation, notamment sur le point de savoir si la Belgique, en se débarrassant d'une plainte, remplit correctement ses obligations internationales? La question n'a pas été réglée explicitement dans la loi. C'était prévu au départ dans le texte initial, mais on a retiré l'idée que de toute façon la Belgique devait respecter ses obligations internationales. Mais si ce n'est pas dit, ça veut dire que c'est quand même implicite et sous-entendu, et donc, il serait parfaitement imaginable que la Cour de cassation puisse, en quelque sorte, invalider une demande de dessaisissement. Ce qui voudrait donc dire que le judiciaire resterait indépendant du politique à cet égard. Ce qui ne va pas nécessairement arranger les affaires, évidemment, du politique. Ceci dit, on peut compter aussi peut-être sur une certaine sagesse des magistrats qui trouveront toujours quelque chose pour finalement cautionner ce que le politique souhaite faire, parce que c'est finalement ça qui se passe. Alors vous me direz, évidemment, dans tout cela, est-ce que le droit international s'y retrouve? Est-ce que cette espèce de courbe rentrante à quasiment 180 degrés que la Belgique opère, est-ce que c'est quelque chose qui concilie parfaitement la politique avec l'éthique, la nécessité de la lutte contre l'impunité avec ce qu'on est occupé à faire pour l'instant? Alors, ma réponse est simple. Je pense que d'un point de vue, dans l'absolu, c'est vrai qu'il y a là un retrait. Et je le regrette certainement. D'un point de vue idéaliste, je le regrette certainement. Ceci dit, il faut bien se rendre compte que si la compétence universelle, et notamment l'obligation d'exercer cette compétence, telle qu'elle est prévue dans les conventions de Genève, ou dans un certain nombre de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies pour les crimes contre l'humanité, ou dans des décisions de la Cour internationale de justice pour le génocide, ou telle qu'on la retrouve dans la philosophie même du statut de la Cour pénale internationale, encore que là c'est peut-être un petit peu moins clair, enfin, en tout cas, l'économie de la lutte contre l'impunité exigerait que la compétence universelle ne puisse pas, comme ça, faire l'objet de filtres divers. Mais la pratique nous enseigne que si d'un côté les États, à travers, je le répète, des conventions, ou des déclarations, ou des résolutions d'organisations internationales disent « il faut que des crimes graves de droit humanitaire soient poursuivis, quel que soit le lieu où ils ont été commis, quel que soit la nationalité de leur auteur ou la nationalité de la victime », et puis que par ailleurs, la pratique nous démontre qu'il n'en va pas du tout ainsi, et la pratique, il suffit de songer aux tribunaux pénaux internationaux. On a créé des tribunaux pénaux internationaux à grand renfort d'argent et de publicité, mais ces tribunaux ont été créés pour deux conflits, la Yougoslavie et le Rwanda, et quid des autres? Quid du Cambodge? Quid du Biafra? Quid du Vietnam? Quid de 30 ou 40 autres conflits où des massacres aussi graves, ou à peu près aussi graves que ceux commis en Yougoslavie ou au Rwanda, ont été commis et où on n'a rien fait. Donc déjà, vous voyez qu'il y a là, dans le système d'organisation de la justice pénale internationale, un système de deux poids deux mesures. Vous retrouvez ce système dans le système de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, dans son système, eh bien, c'est un système qui fonctionne sur une base conventionnelle, purement consensuelle, autrement dit. Les États ne seront liés, plutôt les crimes qui seront de la compétence de la Cour pénale, sont des crimes qui sont liés à des États qui ont reconnu la compétence de cette Cour, essentiellement les États qui sont partis au statut. De nouveau, il y a deux poids deux mesures. Actuellement, à ce jour, il y a 89 États partis au statut de la Cour pénale internationale, ce n'est même pas la moitié des quelques 193 collectivités que l'on peut considérer aujourd'hui comme des États. Donc c'est vous dire que, en réalité, je le répète encore une fois, le deux poids deux mesures est un système qui est érigé par la pratique elle-même. Et donc c'est vrai qu'on ne doit pas nécessairement demander aux États d'être plus catholiques que le pape et de vouloir faire preuve d'un zèle judiciaire intempestif en prévoyant comme cela, je dirais, l'exercice d'une compétence tous azimuts, alors que dans leur pratique elle-même, les États s'en abstiennent prudemment. C'est la raison pour laquelle je regrette cette loi. Je regrette surtout qu'elle soit très 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 mal ficelée, parce qu'on ne sait pas du tout quelles sont les hypothèses où le ministre pourra définitivement rejeter une plainte ou bien pourra simplement la suspendre jusqu'à ce qu'un autre État ou la Cour pénale s'en soit saisie. Donc là, on ne sait pas du tout quels sont les critères de choix pour le ministre. Et il est certain que la loi sera revue après, lors de la prochaine législature. Donc, pour l'instant, c'est un feuilleton qui n'est pas terminé. Nous sommes au troisième épisode. Je peux vous assurer qu'il y aura, dans les mois qui viennent, sinon l'année prochaine, un quatrième épisode. C'est comme on dit en journalisme d'ailleurs, une affaire à suivre.
Carrefour du Monde, c'est terminé pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission. Une émission qui sera entièrement consacrée au sommet du G8 à Évian. Comme toutes les deux semaines, Carrefour du Monde n'aurait pas été possible sans le concours de Clarisse Sérignat à la réalisation et à la coordination à Montréal. Merci également à nos correspondants Nicolas Willems à Bruxelles, Emmanuel Stils à Madrid, Laurent Dufour à Lausanne et Faïd Soueli à Grenoble. Au micro, Nicolas Perronnet. Salut et à la prochaine.